La question du jour.
7h17 sur France Culture. Bonjour Marie-Cécile Nave.
Bonjour.
Ce week-end, un petit vent olympique a soufflé sur Paris. La capitale a profité de la journée olympique mondiale pour vanter les mérites de sa candidature au JO 2024. En lice avec Los Angeles, le verdict est attendu pour le 13 septembre. La France a-t-elle vraiment intérêt à accueillir ces Jeux? En a-t-elle les moyens? Je vous pose la question, vous qui êtes vice-présidente du think tank Sport et Citoyenneté. Est-ce vraiment raisonnable pour la France, pour Paris, d'organiser ces JO?
Alors, je crois que sur le sport, il faut éviter deux discours qui se neutralisent. En fait, le premier discours, c'est un discours très angéliste, en disant le sport, c'est formidable, et le milieu sportif lui-même s'abrite souvent derrière des valeurs incantatoires et abstraites de méritocratie, d'égalité. Mmh. Et en même temps, il y a un discours extrêmement critique, a priori, sur le sport, en disant soit ça ne sert à rien, c'est de l'amusement, ou bien il y a de la corruption généralisée. Je crois que il faut absolument sortir de cette opposition frontale en se disant finalement le sport c'est un véritable enjeu de société. Ça peut être un levier d'innovation économique, sociale, écologique, en termes d'éducation aussi très important. Donc la question qui se pose par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, c'est finalement comment le sport peut apporter quelque chose à la société française, pas juste à Paris et à la région parisienne, mais qu'est-ce qu'il peut apporter, à quels besoins de société ça correspond et comment on peut estimer les retombées matériel et immatériel de cette compétition.
Eh bien, ça tombe bien, c'est exactement cette question que je vais vous poser, puisqu'on est certain que les JO à Paris vont coûter cher. Bien souvent, d'ailleurs, ils coûtent beaucoup plus cher que les prévisions. Expliquez-nous quelles peuvent être les retombées, sachant que Paris est quand même une ville plutôt connue. Je ne pense pas vraiment qu'elle ait besoin de notoriété supplémentaire.
Alors, quand on parle de la candidature de Paris, c'est en fait le Grand Paris. Et il y a toute une communication de Paris 2024 autour de la valorisation des territoires défavorisés, le département du 93, du 95, en disant voilà, il va y avoir un certain nombre de conséquences positives en termes d'emploi, en termes d'éducation, en termes de formation, en termes de sport pour tous, en termes d'aménagement de l'espace public pour qu'on puisse faire de l'activité physique au quotidien, en termes d'impulsion aussi pour favoriser le sport santé dans le monde du travail, dans le monde associatif. La question c'est, ok, comment on peut être sûr de ça? Et là-dessus, il y a deux points que je voudrais dire. Sur l'Euro 2016 masculin de football l'année dernière, il y a eu beaucoup d'espoirs déçus. Parce que comme pour Paris 2024, mais ça a été encore plus incantatoire, je crois, il y a eu une promesse de justement de développer l'emploi pour les jeunes en situation difficile autour de Saint-Denis. La promesse, a priori, n'est pas tenue.
Alors pourquoi le serait-elle pour les JO?
Parce que c'est une candidature qui vient de loin. En amont, il y a eu depuis 3 ans beaucoup de concertations avec justement les think tanks, dont Sport et Citoyenneté a été un acteur important, le monde associatif, les fédérations, les clubs bien sûr, un certain nombre de chercheurs, les collectivités locales, pour savoir si cette candidature était une véritable opportunité. Et moi j'ai participé à ces travaux, notamment sur le fait de se dire voilà, comment cette compétition peut permettre d'aller encore plus loin dans certaines évolutions sociales, comme je vais prendre un exemple en particulier, la valorisation du bénévolat. Le bénévolat sportif, c'est le deuxième secteur de bénévoles en France et en Europe, après le caritatif et le social. Or, dans le bénévolat, on acquiert un certain nombre de compétences informelles, transférables, qui ne sont pas reconnues par le monde du travail. Et dans la candidature de Paris 2024, et notamment dans toute la partie héritage, il y a un certain nombre de choses qui sont quantifiées, qui sont promises et sur lesquelles finalement tous les acteurs qui ont participé à la concertation en amont vont être vigilants. Il faudra rendre des comptes.
Marie-Cécile Nave, si c'est si bien que cela d'organiser les JO, pourquoi n'y a-t-il plus que 2 villes finalement qui veulent bien en organiser, Los Angeles et Paris, si bien d'ailleurs qu'on est quasiment sûr d'hériter des JO à un moment ou à un autre?
Effectivement, il y a eu tellement de problèmes de corruption par le passé. Les organisations sportives internationales ont une image tellement mauvaise et à juste raison pour plein de choses. Le CIO, la FIFA et d'autres, il y a eu beaucoup de scandales.
Bah oui, c'est ce qu'on pense spontanément. Du coup, on se demande pourquoi on se bat encore pour les organiser alors que toutes les autres villes du monde ont abandonné.
Et deuxième chose, dans un certain nombre de pays, et c'est le cas, ça a été le cas à Rio, ça a été le cas à Athènes, ça a été le cas à Pékin, il y a eu ce qu'on appelle des éléphants blancs. un vieux terme de mes cours d'histoire des années 80, qui signifie que finalement on a construit un certain nombre d'infrastructures sportives dont on avait dit, vous verrez, ça servira après pour faire du sport, oui. Pour faire d'autres événements. En fait, non.
Ça sert à tester le vieillissement du béton, quoi.
Voilà, et les coûts ont explosé. Dans le cas de Paris, et ça a été le cas de Londres en 2012 aussi, les coûts prévus sont extrêmement limités. On est à 3 milliards pour l'organisation des Jeux, mais ça ne change pas d'une compétition sur l'autre, plus à peu près 3 milliards pour la construction de nouvelles infrastructures.
C'est ce qui n'est quand même pas rien.
Oui, mais c'est peu à côté des 10, 20, 30 milliards que parfois les coûts explosent dans d'autres compétitions antérieures.
Si ces coûts sont tenus, parce que c'est aussi ça le problème. Lorsque vous regardez les dépassements de coûts, ils vont donc de 32% pour les JO d'Atlanta,
oui,
à
énorme.
12 fois plus cher que prévu pour les JO de Pékin de 2008.
Alors, il y a un certain nombre de choses qui existent déjà, qui sont déjà budgétées. Par exemple, dans le cas du Grand Paris. Et puis le reste, ça va être largement financé par le privé. Et ce qui est intéressant dans la candidature de Paris, c'est qu'il y a très très peu de nouvelles infrastructures qui vont être construites. Un village olympique dont il faudra voir si la promesse de transformation en logement bénéficie à la population aux alentours de Saint-Denis et Saint-Ouen. Là, il va falloir rendre des comptes à la population et au pouvoir public. Et puis la construction d'un bassin nautique à Aubervilliers, parce qu'il n'y a pas de grand bassin olympique. Voilà, ça se limite à ça. Le reste, c'est quand même...
Ce sont les deux seules infrastructures qui sont prévues, ce qui semble...
Plus de 80% des infrastructures sportives existent déjà, et c'est ça qui fait ou seront éphémères, c'est ça qui fait la force de la candidature, et en même temps toute la partie héritage sur également le fait que, il est prévu, il est promis, mais ça sera vérifié, il y aura des comptes à rendre, sur l'accessibilité totale pour les personnes en situation de handicap, sur le fait de réduire de moitié l'empreinte carbone des JO par rapport aux JO de Londres. Et tout ça, c'est des choses qui sont pas des promesses en l'air et qui finalement sont les retombées immatérielles et sur lesquelles je crois que c'est toute la crédibilité du comité d'organisation, mais aussi des pouvoirs publics, de pouvoir tenir ces promesses-là. Et croyez-moi, il y aura des gens qui vont regarder si c'est tenu.
Et alors, à cette date-là, est-ce que l'on sait si la Seine va être baignable? Parce que je crois qu'il y avait un ancien président de la République
quand il était maire de Paris.
Et alors, pour l'instant...
Ça serait formidable.
Mais vous avez des certitudes à ce sujet?
Non, là-dessus, je pense que ça sera quand même dit.
Bon, encore un point d'interrogation. Merci beaucoup, Marie-Cécile, d'être venue nous expliquer.
On signale qu'on a un livre à paraître avec Julien Japper qui s'appelle « Le pouvoir du sport » aux éditions FIP qui sort début juillet.